In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Même si je considère modestement que chaque émission est exceptionnelle, j'ai le sentiment que celle d'aujourd'hui est certainement plus exceptionnelle que les autres. Surtout, elle prouve encore une fois que malgré le territoire restreint qu'elle cherche à explorer, il y a toujours la possibilité de s'affranchir de cette thématique géographique par définition enfermante. Il suffit simplement de chercher les biais, de trouver les leviers, voire les perches tendues qui permettent de contourner ces frontières tout en restant dans le thème. Et quand l'objet est aussi impressionnant que celui d'aujourd'hui, aucune hésitation. Je reçois donc Marc-Antoine Mathieu et Wilfried Wendling, les concepteurs d'un objet littéraire non identifié, tant les développements qu'ils proposent sont infinis. Cet objet est inscrit dans l'archaïsme du papier, support le plus conservateur de la diffusion de la culture qui soit, et il va jusqu'à se déployer dans les espaces numériques grâce au système des QR codes. Mais surtout, cet objet contient en son cœur Kafka. Un Kafka étonnant. Bonjour Marc-Antoine Mathieu.
Bonjour.
Je vous ai accueilli il y a moins d'un an, le 14 février dernier, pour votre diptyque Deep Me et Deep It. Et vous voilà à nouveau dans ce studio pour un autre travail, mais un travail pas réalisé seul cette fois. L'objet Fiche de Kafka, publié par les éditions Nous. Ce coffret a été réalisé pour le 100e anniversaire de la mort de Kafka et c'est le 200e livre publié par les éditions Nous. Alors, première question là, comment vous avez été impliqué dans ce projet ?
Alors, j'ai été impliqué très tôt en fait, c'est depuis 2020 que l'on travaille sur cet objet, sur ce coffret. C'est un travail choral, hein, c'est un travail collectif, c'est une recherche, c'est un laboratoire, un petit laboratoire. Un laboratoire qui a été voulu par Wilfried Wendling de la Muse en Circuit. Il est à Maison Alfort et il est venu me chercher en Anjou. Il a pris le train et il est venu à Angers. Il m'a dit voilà, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et j'ai une idée autour de Kafka. Voilà, c'est lui qui m'a entraîné dans cette histoire et c'est devenu plus qu'une histoire. C'est devenu un voyage parce que de toute façon, quand on va dans Kafka, on part plus en voyage qu'en littérature.
Ouais, avec ce projet Kafka, pourtant, Kafka, c'était pas un inconnu pour vous.
Non, c'était pas un inconnu, mais Kafka, d'une part, on n'embrasse jamais Kafka complètement. Et puis, c'est un auteur et c'est une œuvre qu'on lit et qu'on relit à chaque moment de sa vie. Moi, je l'ai lu effectivement à l'adolescence, à un moment où on comprend pas tout, évidemment, de Kafka, loin s'en faut. On le relit après quand on est plus adulte, et puis on le relit encore. Voyez, et on ne lit pas d'ailleurs toujours les mêmes ouvrages. Voilà, là, avec l'aventure que j'ai vécue avec Wilfried Wendling, avec Denis Lavant, avec les éditions Nous, là, ça m'a permis de m'y replonger d'autant mieux qu'il y avait cette nouvelle traduction qui a été l'occasion de rééditer tout Kafka chez nous, et notamment les fameux aphorismes de Tsurao, mais ça on en reparlera.
On va
les appeler forcément aphorismes.
Oui, il ne faut pas...
Les fameuses fiches de Kafka,
voilà.
Sur lesquelles il avait écrit ces petites phrases qu'on nomme nous aphorismes.
Mais si je dis que ce n'était pas un inconnu pour vous... On le retrouvait, ce Kafka, chez Julius Corentin Akwefak.
Oui, tout à fait, Julius Corentin Akwefak. Le nom Akwefak, c'est un peu un hommage à Kafka.
Ouais.
L'auteur des auteurs, oui. l'auteur symbolique par excellence, quoi. Et c'est vrai que c'est un auteur qui m'a marqué. Et quand j'ai inventé ce petit personnage de Julius Corentin Fac, un peu fonctionnaire, et puis qui se promène toujours avec un point d'exclamation et avec un point d'interrogation au-dessus de la tête, je me suis amusé à faire ce petit hommage, puisque Akfak, c'est effectivement phonétiquement l'inverse de Kafka. C'est un petit peu le tout petit frère rigolo de Kafka. Voilà. C'est une forme de miniature, une miniaturisation.
Une miniaturisation dans combien de volumes de Julius Corentin ?
Il y en a 7.
Il y en a 7, donc c'est plus qu'une miniaturisation. quand Wilfried Wendling vient en Anjou, alors... Vous imaginez, Wilfried Wendling vient en Anjou pour voir Marc-Antoine Mathieu. Avec ce projet, au départ, c'est qu'une idée, ou alors il avait déjà une idée un peu arrêtée du produit qu'il voulait, du résultat qu'il voulait.
Alors, le gros intérêt de cette aventure, c'est qu'au départ, c'est un peu l'installation d'un laboratoire. On installe des choses. Wilfried n'avait aucune idée de ce qu'il était possible de faire. Lui, il est très multifonction, multitâche. Il crée à la fois de la musique, il fait aussi un peu de vidéo, il écrit des textes. Vous voyez, il est très éclectique dans ses chemins et ses sentiers de recherche. Et là, l'idée, c'était ça, c'était de se retrouver et puis de chercher, de bricoler, fabriquer une paillasse et puis qu'est-ce qu'on allait faire avec. Voyez. Et petit à petit, en fonction du projet, d'autres personnes se sont greffées.
Alors, les autres personnes qui sont greffées sur ce projet, ça a été qui?
Par exemple, Denis Lavant, qui a écrit...
Il est arrivé très tôt dans le projet?
Pas très tôt, pas tout de suite, mais à un moment donné, Wilfried Wendling a pensé que c'était important qu'il intervienne. C'est vrai que Denis Lavant, c'est quelqu'un aussi qui expérimente énormément. C'est un vrai créateur, c'est-à-dire sa voix, c'est un matériau. Son visage, sa gestuelle. Donc on a commencé comme ça avec lui à faire des séances photos où les ombres portées comptaient, mais sans forcément savoir que plus tard, ça deviendrait des séquences pour un récit, ou si ça pouvait donner au résultat des fiches de QR code. Vous voyez, c'était vraiment... On a avancé comme ça, un petit peu, pas à pas, en cherchant, sans vraiment savoir. C'est ce que nous avons réalisé, finalement, qui nous a montré ce qu'on cherchait. Pour reprendre la fameuse phrase de Pierre Soulages, vous voyez. C'était vraiment ça l'idée. Et je pense que là... Et un peu comme avec les éditions Nous, hein, c'est un petit groupe de chercheurs qui avons pris le sentier de Kafka, à la fois dans son mystère et puis dans son art.
Alors oui, les éditions Nous, quand on regarde leur catalogue, c'est un catalogue exigeant, serait même presque un mot faible, hein, quand on regarde ce qu'ils ont publié. Il y a un choix d'auteur, un choix de texte qui est vraiment... brillant, je ne sais pas si c'est le terme qui est adapté, mais en tout cas exigeant, ça c'est sûr. Alors on parle de cet objet, parce qu'il faut parler d'un objet, j'essaie de le décrire, ça a l'apparence d'un très gros livre. Voilà. En fait c'est un leurre, parce que quand on l'ouvre, il n'y a pas des feuilles, il y a deux emplacements, deux encoches dans ce livre, dans lequel sont insérées des fiches. Voilà. Et il y a plusieurs jeux de fiches. Le premier jeu, on va dire que ce sont les fiches, les aphorismes. Alors, il faut supprimer le mot, mais ce n'est pas grave. Les aphorismes de Kafka. Et là, il y a 105 fiches. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des dessins. Et il y a deux jeux. Un jeu de 26 dessins qui s'appelle le cercle restreint. Un deuxième jeu de 36 dessins qui s'intitule « Les environs de l'impossible » et un jeu de QR code, 6 fiches QR code, alors là qui ouvre le livre vers autre chose, l'objet vers autre chose, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer, de déclencher ces QR codes pour entrer dans le monde J'aurais presque tendance à dire, c'est comme quand on ouvre une page d'un album de Marc-Antoine Mathieu. On va vers quelque part et on va dans le monde virtuel. Ce dispositif, vous l'avez dit, c'est le produit d'un laboratoire, c'est le résultat d'un laboratoire de recherche. Mais qu'est-ce qui est un peu orienté vers ce format-là, plutôt ce format-là ?
Alors, il y a déjà l'idée de la boîte, parce que en fait, c'est un livre, effectivement, comme vous le disiez, d'apparence, d'extérieur. On a l'impression vraiment que c'est un livre, il a le même format, avec un dos de couverture, oui. Une tranche, etc. Mais en fait, quand on l'ouvre, on s'aperçoit que c'est un coffret. Et dans ce coffret, il y a les fameuses fiches, donc Kafka. Et ces fiches, elles ont exactement le même format que les fiches sur lesquelles avait écrit Kafka.
Kafka.
Donc, c'est parti de ce format-là. Mmh. À l'origine, Wilfried, lui, il aurait préféré peut-être avoir un coffret où, justement, on retrouvait ce côté un peu foutraque du labo. C'est-à-dire des objets comme ça qui se seraient baladés dans la boîte, des fiches, des dessins, pourquoi pas un timbre, un morceau de pellicule. Il y avait comme ça des idées qui traînaient au début. Et puis, bon, quand même, à un moment donné, on s'est dit, attention, ça va être compliqué, ça coûtait quand même un petit peu cher. Donc, on est revenu à quelque chose, on va dire, de plus classique, entre guillemets, dans les formes, hein, mais par contre, pas classique dans le prolongement qu'il propose. Exactement comme le château de Kafka, vous voyez, qui ne se finit pas et qui n'en finit pas de finir. Le livre coffret, c'est un peu pareil, ça n'en finit pas de finir. Mmh. Et je fais confiance à Wilfried Wendling pour continuer de ne pas finir. Parce qu'évidemment, les QR codes renvoient à des lectures de Denis Lavant, renvoient à des très belles séquences musicales de Wilfried Wendling qui accompagnent des fois des textes, mais qui aussi accompagnent des silences, qui accompagnent un laboratoire vocal qu'ils ont fait ensemble, Denis Lavant et Wilfried Wendling. Et donc, on part comme ça en voyage. Alors, les fils sont parfois très serrés avec Kafka, puis des fois, ils sont un peu plus ténus. Mm-hmm. C'est un petit peu comme les deux groupes de dessins, le cercle restreint d'un côté et de l'autre côté, les environs de l'impossible. Il y a quelque chose de très ténu et l'autre qui est beaucoup plus distendu. Le cercle restreint, j'appelais ces dessins, cette série de dessins comme ça, en référence à Kafka qui parlait de son cercle restreint, qui était un périmètre dans Prague finalement assez restreint, assez fermé. Il s'agissait pas du tout pour ces dessins d'illustrer Kafka, surtout pas. C'est bien plutôt de rassembler comme ça des instants de rêverie, des points d'ancrage. Quand on a lu Kafka, quand on s'est replongé comme ça dans Kafka pendant de plusieurs années, qu'est-ce qui reste si on avait tout oublié ? On n'oublie pas Kafka, malheureusement. Mais faire l'effort de qu'est-ce qui resterait si on oubliait Kafka ? Et donc, dans le cercle restreint, j'ai fait une réduction, d'une certaine manière, de ce que pouvait être un Prague, mais un Prague... Un Prague, vous voyez, avec une mémoire qui resterait, mais qui s'effacerait quand même. Voilà, ce Prague-là, ce Prague de Kafka. Et puis, dans les environs
Oui. Mais dans ces fiches, le cercle restreint, juste pour prolonger, je dirais, on n'est presque pas dépaysé. C'est-à-dire que quand on sait que c'est Marc-Antoine Mathieu qui a réalisé ces dessins, on est presque en terrain de connaissance, en fait. On n'est pas... je ne vais pas dire qu'on n'est pas surpris, mais on est dans du noir et blanc. Enfin, moi, j'étais en terrain de connaissance. Et puis, ces fiches, alors on ne sait pas si elles s'ouvrent ou si elles ne s'ouvrent pas là-dessus, mais la première fiche, donc, c'est quand même un cas. Oui. Mais c'est un livre ouvert, en réalité. Donc, voilà, on est malgré tout chez Kafka. Donc, voilà, je voulais dire ça parce que maintenant, le deuxième jeu de fiches. Alors ça, le cercle restreint, c'est 26 dessins que vous avez réalisés. Après, il y a les 36 dessins qui s'appellent « Les environs de l'impossible ». Et là, on n'est plus du tout chez Marc-Antoine Mathieu. Là.
Oui, alors voilà, comme je dis souvent, j'ai quitté un peu ma zone de confort. Non, c'est vrai que bon, le dessin de mes bandes dessinées est très noir et blanc, très radical. C'est un dessin, on va dire, appliqué, un dessin au service d'un récit, au service d'une histoire. Donc c'est un dessin qui est très, on va dire, dans la maîtrise, dans la... C'est presque du graphisme même, presque plus que du dessin. Alors que dans l'environnement de l'impossible, je me suis mis à l'aquarelle. J'ai eu comme ça une espèce de fièvre d'aquarelle pendant 3 semaines sur la table chez moi. Il y avait tout d'un coup, il y a eu des lavis, des pinceaux, plein de trucs qui se sont voilà. J'ai recréé une espèce de midi laboratoire en solo, loin de Paris et loin des amis de l'aventure des fiches. Et puis et là, c'est assez étonnant, en fait, je me suis amusé à rêver autour d'une campagne improbable, autour d'un impossible à atteindre. Alors, il y a un peu du château, hein, il y a un petit peu cette vision extraordinaire, très fantomatique du château que Kafka décrit très peu, finalement, dans le château. Il y a très, très peu de descriptions, mais les descriptions sont tellement fortes qu'elles nous impriment. Et voilà, et je me suis amusé un petit peu à voyager comme ça dans une campagne un peu montagneuse, en imaginant des archétypes de ponts, un donjon, un moulin, la rivière, le vieux pont, la route, le chemin, le sentier, etc. Et en fait, et après je me suis aperçu j'ai su après coup que Kafka de temps en temps faisait des très très grandes balades comme ça dans les paysages autour de Prague. Et c'est raconté d'ailleurs, Max Brod à un moment donné raconte comment des fois il revenait très très tard dans la nuit et ça inquiétait sa famille parce qu'il rentrait très très tard. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo que j'ai eu cette idée de faire une espèce de promenade d'un promener improbable. Alors, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Kafka, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est une rêverie. C'est une rêverie autour d'un paysage. Donc, on est loin, justement, on est loin de Prague. On est loin de quelque chose de défini. On est loin de la contention. C'est comme si il y avait une forme de libération, une espèce de retour à la nature, mais malgré tout, avec la vie qui est là, qui peut être pesante parce qu'on a un regard sur le monde et parce que forcément, on va réfléchir sur le monde. Voilà. Donc là encore, j'ai tourné autour, j'ai gravité loin, loin autour de Kafka. C'est pas une illustration de Kafka, c'est plus je gravite autour et si je l'aperçois dans une vallée, c'est qu'est-ce qu'il pourrait y avoir autour, par exemple. C'est un peu ça, les environs de l'impossible.
Mmh. Alors, environs de l'impossible, c'est effectivement des cartes avec une constante. Le dessin est à la même forme, un cercle. Dans lequel il y a un paysage. Donc, comme si la carte s'ouvrait sur quelque chose, nous emmenait loin, très loin. Il y a du flou. Il y a le choix du cartonnage, qui est un carton bistre. Voilà, il y a toute une. Il y a quelque chose qui fait penser à quelque chose d'ancien, enfin, qui nous renvoie à quelque chose d'ancien, avec un truc complètement fou, enfin, complètement dingue. Et c'est. Une des ouvertures de ce coffret, c'est que ces environs de l'impossible, ces 36 cartes, ce sont des cartes postales.
Oui, c'est ça. Oui, ce sont des cartes postales envoyer.
Ça veut dire qu'on peut faire vivre les fiches de Kafka en envoyant ces cartes à qui on veut.
Exactement. Voilà. Ouais,
c'est un truc, c'est une dimension de ce projet qui est complètement, on ne peut plus archaïque. Puisqu'on vient d'apprendre que, par exemple, à Copenhague, on a supprimé toutes les boîtes aux lettres à l'extérieur parce qu'on n'envoyait plus de courrier. Et puis là, on arrive avec un format qui est justement le contraire, le contre-pied, c'est-à-dire des fiches qu'on peut envoyer. Et comme vous l'avez dit, on n'est pas dans l'illustration. Parce que s'il y a 105 fiches de Kafka, là, on est à 62 dessins, donc on est bien loin du nombre. Donc aucun dessin ne correspond à aucune phrase, aucun aphorisme.
Surtout pas. Enfin, ouais. C'est pas possible d'illustrer les phrases de Kafka, son ressenti, ses interrogations, puis même la beauté pure des textes. Par contre, ce qui est possible, c'est d'envoyer une carte postale avec un des aphorismes de Kafka à un ami ou une amie. Ça, Ça, c'est vrai. Que
ça irait très loin. Et puis,
mais pour revenir sur l'aspect un peu vieux, oui. C'est vrai que j'avais envie que ça soit un peu hors du temps, comme si oui. le temps avait passé, ou alors que c'était des cartes postales qu'on avait retrouvées. Mmh. Et puis, le côté rond un peu, avec des bords un peu flous, ça peut faire penser soit à une lanterne magique, ou alors une longue vue. Vous voyez, vous avez une vieille oui. longue vue qui ne grossit seulement que 5 fois, et vous regardez la montagne qui est au loin, ou la falaise, et bon, oui, elle grossit un peu, mais c'est quand même un peu flou, donc c'est à peine rattrapé, vous voyez, c'est y a quand même ça quelque chose d'inconfortable, et en même temps, on devine qu'il y a de la splendeur. Mmh. Et ça c'est Kafka, vous voyez, derrière l'inconfort, derrière la maladie, derrière tout ce qui grince, il y a de la beauté, il y a du saphir, mais où est-il, on ne le sait pas, faut lire.
Mmh. Alors, c'est complètement paradoxal, ça peut sembler presque contre-intuitif, mais pour plein de raisons, j'ai dû faire un travail il y a quelques mois sur Jules Verne, et j'ai donc relu Le Château des Carpates. Et mystérieusement, pourquoi j'ai associé les paysages que vous avez dessinés au paysage que je m'étais fabriqué, d'ailleurs, du Château des Carpates. C'est complètement étrange, mais voilà, ça m'y a fait plonger, avec aussi une autre particularité, ce n'est pas dans vos habitudes. Il y a, à chaque fois, il y a pas un titre, mais il y a un nom sur la carte. C'est-à-dire, le nom décrit, dit ce que l'on voit, comme sur une carte postale classique de vacances. Alors, il y a le ravin, le torrent, le village. Avec une particularité pour le village, c'est l'impasse des Bas. Donc, c'est vraiment pas n'importe quel endroit du village. La forge. Enfin, vraiment, on retrouve tout cet univers. Enfin, cet univers que vous avez réalisé.
Oui, parce que j'avais un peu pour revenir à ce côté hors du temps, ce qui est très très fort dans Kafka justement, c'est la simplicité, c'est l'extrême simplicité qui aboutit à une formidable complexité. Et dans Kafka, on est hors du temps. C'est-à-dire que les thèmes, les personnages, les paysages, les maisons sont décrits de telle sorte qu'on pourrait penser que ça se passe au bas Moyen-Âge. Ça pourrait tout à fait. Mais ça peut se passer aussi l'an dernier. Ouais, c'est ça qui est cet aspect comme ça, hors du temps, donc universel, même des fois presque symbolique. Ça, c'est quelque chose, effectivement, forcément, qui m'a un peu imprégné. Quoi.
Alors, avant de passer une pause musicale, je vais juste lire. Alors, on pourrait lire toutes les fiches. Moi, j'en ai retenu une. Voilà, c'est la fiche numéro 66. C'est un libre citoyen de la Terre et sûr de ses droits, car il est attaché à une chaîne assez longue pour lui donner accès librement à tous les espaces terrestres. Mais qui n'est pas assez longue pour que quelque chose puisse l'arracher aux limites terrestres. Mais en même temps, il est aussi un citoyen du ciel libre et sûr de ses droits, car il est aussi attaché à une chaîne céleste conçue de manière comparable. S'il veut aller sur terre, le collier du ciel l'étrangle. S'il veut aller au ciel, c'est le collier de la terre. Et pourtant, il a toutes les possibilités et il le sent. Il se refuse même à renvoyer tout cela à une faute lors du premier riftage. Il y en a qui sont très très courtes. Hein. Enfin, c'est vraiment. Mais voilà, ça donne un peu. Alors là, on est complètement dans l'univers classique de Kafka. Il y en a d'autres. On en lira d'autres qui sont toutes. Alors certaines extrêmement mystérieuses, vraiment presque hermétiques. Enfin, voilà, c'est un voyage très étrange. Et je vous propose de faire une première pause musicale. Le titre Handel de Tilassine, une hybridation de la musique dite classique, et à mes oreilles c'est toujours aussi réjouissant à écouter. Transition que j'ai jugée adaptée pour nous conduire à cette conversation avec Wilfried Wendling. Vous écoutez Entre les pages et ce n'est que sur Radio G, fréquence 101.5. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au coffret Fish, publié par les éditions Nous à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Franz Kafka. Bonjour Wilfried Wendling.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes compositeur de musique contemporaine, vous dirigez la Muse en circuit qui a été fondée par Luc Ferrari. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce qu'est la Muse en circuit ?
Je viens de considérer que la Muse en circuit est avant tout un espace de diversité et de liberté d'expression musicale. On est certes un centre national de création musicale et donc à ce titre un des labels de l'État. Mais j'aime surtout défendre en fait l'incroyable richesse de la création musicale d'aujourd'hui et surtout une forme de résistance à l'uniformisation des pratiques artistiques en général. On a tous envie de découvrir des choses, mais finalement on écoute tous la même chose et on écoute à peu près les mêmes chansons et à peu près les mêmes musiques qui ont toujours un refrain et un couplet, ce qui est très bien en soi. J'ai aucune condamnation à l'égard de ça, mais simplement je pense qu'il y a d'autres richesses, comme il y a d'autres émotions, que ce soit culinaire ou cinématographique ou dans la bande dessinée. On peut explorer aussi d'autres chemins et y prendre énormément de plaisir et satisfaire autant le cœur que l'esprit.
On vous reconnaît bien là, Wilfried Wendling, parce que dès qu'on vous fait parler, il y a l'enthousiasme qui transparaît dans vos propos. La Muse en circuit, et alors voilà, il y a Kafka, la littérature. Comment Kafka entre dans votre vie ?
Eh bien, Kafka entre dans ma vie d'abord, comme tous les étudiants, par des obligations, et j'avoue que ça n'a pas vraiment marché, en fait, dans ce premier cadre-là. Et puis ensuite, il y a la découverte de Robert Kahn, et pour moi, en fait, j'ai découvert d'abord la langue de Kafka, bizarrement, et ensuite finalement sa pensée. Ce que je croyais connaître de Kafka était finalement une espèce d'aperçu où on a toujours... C'est assez rare qu'un auteur devienne un adjectif, mais on utilise kafkaïen en fait comme une espèce d'opprobre un peu noire sur la question de la complexité administrative le plus souvent, etc. Et en fait, Kafka, c'est bien autre chose. Et ce qu'a saisi Robert Kahn, c'est d'abord une langue qui me semble aussi être en décalage avec une forme de beauté de la langue française. C'est aussi un problème qu'on a en français, c'est qu'on a une langue qui va naturellement vers le beau, une forme d'élégance et de raffinement, et que la langue qu'a choisi Robert Kahn, qui disait pas du tout, qui n'affirmait en aucun cas que c'était une traduction définitive, mais pour moi, elle a ouvert une grande porte vers quelque chose d'autre, en fait, du domaine de Kafka, qui est une forme de rugosité. Alors, la rugosité de la langue est quelque chose de beaucoup plus âpre, qui va pas forcément chercher le beau et l'immédiat plaisir, en fait, de la langue, mais une autre forme de saisissement, de quelque chose qui ouvre aussi d'autres horizons. Et puis après, la découverte de la langue, des idées, et les fiches notamment, qui sont, à mon sens, une œuvre majeure de Kafka, notamment par tout l'humanisme, la métaphysique, et les questions morales, en fait, qu'elle pose. Et ça, c'est toute une dimension de Kafka, à mon avis, qui est trop injustement inconnue.
Sur la question de la traduction de Kafka, vous rejoignez sans doute les propos de Jean-Pierre Lefebvre, l'un de ses traducteurs, qui dit « Nous, lecteurs francophones, nous faisons une idée pas toujours exacte de la langue kafkaïenne. Elle est en effet beaucoup plus directe que celle que les traductions qu'en a fait Alexandre Vialat. »
Je ne connaissais pas du tout cette idée, mais je la partage entièrement. C'est exactement ça pour moi.
Mmh. Alors, bien sûr, Kafka. Alors, effectivement, on a tous, à un moment ou un autre, rencontré Kafka. Mais les fiches, ces fiches, ce document si particulier, comment vous en avez eu connaissance? Parce que c'est quand même un document qui est rare, en fait, hein, qui n'est pas connu du grand public.
Alors, j'en ai eu de connaissance d'abord en découvrant Kafka et après Robert Kahn, finalement, et ses différentes publications aux éditions Nous. J'ai eu connaissance, en fait, de ce texte qui avait déjà eu une traduction française. Et j'ai trouvé, alors, les traductions et les éditions sont toujours, en fait, sous forme de papier. Contrairement à ce que voulait Kafka, en fait, qu'il soit une édition. Alors, malgré la numérotation, qui est un peu paradoxale avec la question des fiches, mais avec une façon de se saisir de l'œuvre, en fait, qui est libre, et d'assumer finalement jusqu'au bout ce qui fait une caractéristique, pour moi, très stimulante, en fait, de Kafka, qui est l'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a plein de fragments, il y a rien qui soit complètement terminé chez Kafka. On sait qu'il ne voulait pas que ses œuvres, que ses œuvres post-mortem soient publiées. Et heureusement, on en a trahi la volonté de Kafka, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qu'on ne cesse de découvrir, et ces fiches, pour moi, en font partie.
Alors justement, moi ce qui m'intéresserait, c'est que vous rappeliez le processus qui a permis à Kafka d'arriver à ces fiches. Parce que ces fiches, elles n'étaient pas des fiches au début, elles étaient autre chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce processus-là?
Alors, je suis pas sûr de connaître complètement le processus, mais en tout cas, il y avait une volonté chez Kafka de travailler sur un format et au-delà de la question des fiches, une volonté, en fait, qui était presque délimitée par la page. Ça, c'est Robert Kahn qui m'en a parlé quelques temps avant sa mort. Et Kafka, parfois, arrêtait ses pages, en fait, dans la page. Et donc, il écrivait un texte et la page, en fait, dictait finalement presque le contenu de ce qu'il écrivait. Et de la même façon, je pense que Kafka a écrit justement ses fiches en tenant compte, en fait, d'un format très particulier que les éditions Nous ont voulu respecter, c'est-à-dire que c'est le format initial de Kafka et la répartition, en fait, par feuille qui avait été voulue dans une période en plus très particulière de l'époque de Kafka. Mais sur le contexte, rappelez-le-moi parce que je ne me souviens plus exactement.
Ben c'est simplement, en fait, ce que Kafka a d'abord écrit dans un cahier classique, mais après qu'il a ressaisi tout justement pour les transformer en fiches et sur ce format si particulier, enfin un format 10x14, 10x5x14x5, enfin un format très très particulier. Et donc Kafka s'est astreint à reproduire tous ces textes méticuleusement, chacun sur une fiche. Voilà, c'est juste ça que j'évoquais. Donc ce projet, et Marc-Antoine en a parlé au début de l'émission, on parle de laboratoire, hein, c'est un laboratoire. Laboratoire, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs chercheurs, on les a évoqués. Mais Marc-Antoine Mathieu, vous l'avez rencontré comment? Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui a réalisé, qui a participé à ce projet?
Ah, pour moi, je suis presque plus fan de Marc-Antoine Mathieu que de Kafka. Pour moi, c'est un auteur absolument génial et qui m'a complètement marqué et traumatisé. J'avais déjà tous ses livres avant, etc. Et puis, j'avais cette envie de Kafka, en fait, depuis longtemps. Je sentais, mais c'était un peu instinctif, parce que j'avais pas encore tous les liens, en fait, qui sont assez importants entre Kafka et Marc-Antoine. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à tâtonner autour de ce projet, J'ai eu la chance de contacter Marc-Antoine qui m'a très gentiment répondu. Et puis on a simplement discuté autour de comment faire avec Kafka. Et on n'était même pas parti forcément sur les fiches. Et d'ailleurs, le laboratoire dont vous parlez, en fait, est autour des fiches, mais pas seulement. C'est-à-dire que toute la partie musicale et même les dessins de Marc-Antoine évoquent aussi d'autres œuvres. Donc on est toujours en fait sur un horizon, un paysage, quelque chose d'incertain. On tourne autour de Kafka et on essaie d'en saisir en fait quelques bribes, quelques sentiments, des choses qui nous ont touchés. Alors certes, les fiches sont la seule œuvre intégrale effectivement du coffret, mais à travers notamment les films et les images les musiques que j'ai pu réaliser, notamment en travaillant avec Denis Lavant, il y a beaucoup d'autres œuvres qui sont également proposées par fragments, également tout le temps.
Alors, cet aspect de la contemporanéité de l'objet que vous avez réalisé, c'était en l'inscrivant avec les outils d'aujourd'hui, quoi. Enfin, le monde numérique, la technologie d'aujourd'hui, c'était important de connecter Kafka à l'environnement d'aujourd'hui, à notre monde d'aujourd'hui. Pour vous, c'était important ?
Pour moi, c'était plus une évidence. C'était pas forcément une volonté. C'est-à-dire que je trouve que Kafka, en fait, est contemporain et que même à son époque, ce qui est très troublant dans son œuvre, c'est qu'il a une espèce de préscience des drames du XXe siècle qui vont arriver et que sa famille a subi de façon déchirante avec le nazisme. Il y a chez Kafka quelque chose qui... On parle encore une fois du terme kafkaïen parce que les sociétés se sont énormément administrées et de plus en plus. Les totalitarismes ont caricaturé en fait tout ça. Et donc il y a une espèce de préscience. L'actualité de Kafka, pour moi, elle est permanente parce qu'en fait c'est une forme de poète-philosophe qui dit des choses de l'humanité qui sont complètement bouleversantes et qui sont complètement débarrassées en fait d'aporie en fait du enfin elles sont pas complètement débarrassées mais elles dépassent les apories du passé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui touche et qui a complètement traumatisé le XXe siècle et tous les philosophes et écrivains du XXe siècle ont été bouleversés par l'œuvre de Kafka. Donc Kafka est toujours pour moi, au cœur, en fait, d'une forme d'actualité. Après, j'ai des outils qui sont très liés à l'électronique ou à l'intelligence artificielle, même dans le traitement de certaines images ou de certains sons. Mais c'est pour moi plus du domaine de l'évidence, en fait, que d'une volonté un peu calculée, en fait. C'est quelque chose qui s'est fait, en fait, de façon naturelle et dans le plaisir de la découverte et du jeu autour de l'œuvre de Kafka.
Alors, il y a la voix VOIE du numérique, il y a la voix VOX de Denis Lavant. Alors, même question que pour le cas de Marc-Antoine, pourquoi ce comédien ? Pourquoi Denis Lavant ?
Alors, je ne saurais pas répondre, parce que je travaille avec Denis Lavant depuis maintenant presque 15 ou 20 ans, et c'est pour moi un acteur auquel on s'attache. Pour moi, il a un génie qui est évident pour tous ceux qui aiment un petit peu le texte. Et lui-même, en fait, est surtout un passionné de texte. C'est-à-dire que, à chaque rencontre, quasiment, Denis Lavant me fait découvrir un nouveau poète ou un nouveau livre. Et c'est une espèce d'érudit qui est absolument passionné de littérature et de poésie en particulier. Et donc, j'avais déjà fait plusieurs spectacles et plusieurs projets avec Denis. Et c'est finalement au moment du Covid que les studios étaient libres. Et donc, puisque tout était bloqué, et donc même parfois à la limite de la légalité, on a profité des studios pour expérimenter finalement autour de Kafka, faire des lectures, aller un petit peu dans tous les sens, comparer des traductions, s'amuser avec les fiches notamment, et on a commencé là en fait une espèce de laboratoire vocal et littéraire en enregistrant un nombre considérable de textes, dont certains seulement sont présents dans les 10 heures de musique qui sont inclus avec le coffret.
Alors, cet aspect-là, parce qu'on est vraiment dans le monde d'aujourd'hui avec cet objet, ce coffret, qui s'ouvre vraiment... alors, qui s'ouvre, les fiches se démultiplient. Si on est un peu maladroit en ouvrant le coffret, les fiches se répartissent partout. Mais le coffret ouvre aussi vers l'ailleurs. Qui est-ce qui a eu l'idée de ces QR codes ?
Je ne sais plus. Je ne sais plus du du tout comment on en est arrivé là. Je sais que la question du numérique, en fait, était assez importante parce qu'on s'est beaucoup posé la question d'abord du format. On souhaitait aussi un coffret qui soit accessible au niveau du prix, donc on ne pouvait pas complètement rentrer dans des délires numériques qui nous auraient mis complètement hors d'accès, en fait, au niveau économique. Et c'est vrai que les QR codes, en fait, sont devenus un outil finalement assez courant, mais qui ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que même sans les QR codes, il y a d'autres moyens dans le coffret, en fait, de pouvoir accéder aux images et aux sons, mais c'est celui qui aujourd'hui est le plus répandu. Et finalement, il a une forme, le QR code, de graphisme qui rejoint presque la question du labyrinthe qui est chère à Kafka et à Marc-Antoine. Et il rejoint, en fait, à plein d'endroits, un graphisme très, très épuré et en même temps assez intéressant. Donc finalement, il y a une forme là aussi d'évidence qui s'est mise en place au fur et à mesure des discussions.
Oui, parce que si on fait pas très attention, quand on a le jeu de QR code, il est extrêmement graphique, extrêmement plastique, avec un Denis Lavant qui est dans toutes les positions, quasiment partout dans toutes les positions. Et puis en fait, effectivement, il faut aller jusqu'au bout de l'expérience. C'est-à-dire, il faut se dire, ces QR codes, ils servent à quelque chose. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas besoin forcément des QR codes. On peut aller sur Internet et on peut retrouver toutes les vidéos, les sons, cette voix de Denis Lavant qui est complètement pas hypnotisante, mais enfin qui est impressionnante dans sa diction, dans sa manière de dire. Donc effectivement, l'objet qui a été réalisé, qui s'ouvre partout, est accessible. Enfin. Vous l'avez voulu accessible pour tout le monde.
Oui, complètement. La mise en circuit est un label de l'État et à ce titre a une mission de service public. Et donc pour moi, il était très important pour cet objet en particulier qu'il puisse être accessible en fait au plus grand nombre. Et donc effectivement, on a joué de tous les liens possibles en fait pour que ce soit complètement accessible. Et de toutes les façons, l'économie du streaming a fait exploser le droit d'auteur pour les musiciens depuis longtemps.
Alors vous l'avez dit, vous êtes musicien, alors on va vous... C'est pas bien de ranger les gens dans des catégories, mais vous m'en voudrez pas. On peut vous ranger dans la catégorie des musiciens contemporains. On peut aller écouter la musique que vous faites. Vous travaillez beaucoup. Alors j'avais un souvenir des musiques électroniques avec des musiciens qui étaient sur scène avec des dizaines de claviers, de machines et autres. Vous, en fait, vous travaillez avec une petite valise. Et il y a tout dedans.
Oui, mais ça, c'est uniquement ma pratique. Il y a encore beaucoup de musiciens qui aujourd'hui travaillent avec des armoires entières. En fait, le synthé modulaire, par exemple, et le côté modulaire, justement, rejoint un petit peu la question des fiches. C'est que la modularité aujourd'hui est aussi un outil qui est très utilisé par beaucoup de musiciens. Et comme en musique, il y a plein de voies en fait pour travailler la question du geste, pour travailler la question des nouveaux sons, et on n'est qu'à l'orée effectivement de ce qui arrivera demain avec l'intelligence artificielle. Donc après la question mais ça c'est une question vaste où là je ne faut pas que je m'emballe trop sur ce sujet-là, mais la question du geste et de la musique par rapport à l'électronique renverse complètement en fait les réflexes classiques qu'on a d'un instrument qu'il faut travailler longtemps pour apprendre un geste précis et former un son précis. L'électronique finalement inverse la question en disant on a un son, comment est-ce que je veux le produire? Quel geste pour moi? Et là on est quasiment dans une question chorégraphique et artistique, c'est quel geste m'intéresse le plus pour produire ce son-là, puisque finalement on a mille façons en fait de générer un son par le geste.
Alors, quand vous avez lu, relu ces fiches, vous étiez imprégné de Kafka, est-ce que spontanément, la musique est venue, vous est venue?
Oui et non, je pense que il y a toujours des moments en fait, qui sont assez intuitifs et des choses dont on a envie tout de suite. Je pense plus, alors là pour paraphraser Schoenberg, le style et l'idée sont vraiment des choses, des problématiques en fait assez complexes et qu'on peut avoir des intuitions immédiates de certains styles, de certaines envies de genre, par exemple musicaux, de choses qui soient purement bruitistes ou au contraire des choses qui soient du domaine de la chanson. Et il y a certaines chansons que Denis a accepté de chanter, notamment sur les fiches, mais selon les textes en fait et selon les moments, il y a eu différents moments, des choses qui sont venues de façon assez rapide et instinctive, et d'autres qui ont été beaucoup plus laborieux, sur lesquels il a fallu revenir. Et les chansons, par exemple, pour moi, ne sont jamais évidentes, parce que trouver l'évidence, justement, d'une mélodie, c'est quelque chose qui est une alchimie un petit peu magique. Donc, on en pose plein sur le papier, on en fait jouer aussi beaucoup. Et puis, à un moment, on sélectionne et on trouve que ça fonctionne. Mais c'est quelque chose qui est finalement très simple et qui est à la portée de chacun et qui va l'être davantage encore avec l'intelligence artificielle qui va abolir le savoir-faire. Il va uniquement garder, en fait, la question, justement, de l'idée et d'un style.
Alors, Wilfried Wendling, on va faire une deuxième pause musicale. Je vous propose de rester, puis on va converser avec, en même temps avec Marc-Antoine pour la dernière partie de l'émission. C'est possible pour vous ?
Avec plaisir.
Bien. Eh bien, pause musicale.
Came to Earth an alien to make this peace with who I am. And though this is my motherland, I cannot be American. Some say that I'm African, that's African-American. But what about my Indian? I should be taking back my land. I should be taking back my land. Crashing through sound barriers. Her spaceship disintegrated into electronic samples. She landed here. She landed here with a distinct taste for flying on the back of her tongue like a love song. On the back of her tongue like a love song. Crashing through sound barriers, her spaceship disintegrated into electronic samples. She landed here. She landed here with a distinct taste of flying. On the back of her tongue, like a love song. On the back of her tongue, like a love song. You keep trying to remember, 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 remember.
Vous venez d'écouter She Landed Here et c'était un titre de Zenzile qui date de 2003. Vous êtes toujours sur Radio G, fréquence 101.5 et je reçois aujourd'hui Marc-Antoine Mathieu et Wilfried Wendling, concepteurs et plus que ça d'ailleurs du coffret Fiche de Kafka paru aux éditions Nous. Reprenons notre conversation. Alors, moi j'ai décrit ce coffret, plus que de complexité, il faut parler de richesse. Vous avez parlé, autant Jean-Marc que Wilfried, vous avez parlé de laboratoire. Alors, vous travaillez où, en fait ? Vous êtes retrouvé où pour travailler pour ce laboratoire, Wilfried ?
Dans plein d'endroits différents. On a travaillé un peu chez Marc-Antoine, on s'est revus plusieurs fois à la Muse, parfois dans des cafés, parfois dans un studio, à différents endroits.
Est-ce que c'était une équipe qui était composée ou les gens venaient un peu suivant leur disponibilité ?
Une équipe pour la musique, vous voulez dire ?
L'équipe pour le projet, parce que il y a aussi Denis Lavant, enfin il y a plein de monde en fait dans cette affaire-là, donc tout le monde se retrouvait pour rechercher ou alors bon c'était un peu au gré des disponibilités de chacun.
Il y a eu beaucoup de phases différentes parce que avec Marc-Antoine, par exemple, une des premières aventures communes, ça a été la séance photo qu'on a faite avec des séances photo qu'on a faites avec Denis. Donc, ce qui devait être, je sais plus, en 2021. Là, on a fait une séance pendant pendant 2 jours en fait avec avec un photographe, et donc Denis était dans différentes situations, différentes positions, et là on avait préparé en amont en fait la séance. Marc-Antoine et faisait certains dessins, d'autres avec la question de l'éclairage, et en imaginant en fait ce qu'on pourrait en faire ensuite, mais on n'avait pas d'idée préconçue en fait sur ce qu'allait donner le rapport des photos. C'était une chose dont j'avais un peu l'intuition, mais qui était un peu une recherche finalement. Ensuite il y a le travail individuel de la question de la composition, et puis du côté musical là il y a eu énormément d'ateliers différents, parce que j'ai enregistré parfois avec 30 musiciens, des fois uniquement avec 3, des fois avec un seul. De la même façon, alors Denis a travaillé le plus souvent seul avec moi. On a fait quand même une ou deux séances avec Marc-Antoine, c'était passionnant d'ailleurs de pouvoir diriger, que Marc-Antoine puisse diriger aussi Denis sur le travail d'interprétation. Et puis on a fait des séances aussi avec Denis et avec des musiciens où on a repris certains textes, repris certaines chansons. Donc il y a eu plein de séances d'enregistrement qui ont fait une montagne de matériaux musicaux et sonores, et dans lequel il a fallu que je sélectionne ensuite ce qui m'intéressait le plus. Mais je voulais vraiment ne pas avoir d'idée préconçue sur ce que ça allait être en fait de façon trop précise. Et c'est pour ça qu'en écoutant en fait les 4 albums plus la quinzaine de films qui ont été faits, on est vraiment en fait sur différents horizons, différents paysages autour de Kafka.
Marc-Antoine, Wilfried vient de parler du travail avec Denis Lavant, donc apparemment vous avez dirigé Denis Lavant. Ça semble toujours improbable, ça. Est-ce que c'est possible de diriger Denis Lavant? Comment ça se passait, les séances avec Denis Lavant? Vous racontiez là hors micro que c'était lui aussi, c'est un chercheur.
Oui, c'est ça. Diriger, non, pas du tout. J'en ai pas la prétention. Et puis, de toute façon, comme le dit Wilfried, c'est une aventure sans réelle direction. Vous voyez, quand vous vous promenez dans la campagne, en forêt, que vous avez décidé simplement de vous perdre, vous dirigez rien, en fait. Vous cherchez, et puis c'est plutôt les directions que tout le monde prend plus ou moins qui vous dirigent, finalement. Vous voyez, Denis Lavant, bah, c'est quelqu'un qui est à la fois un chercheur très très pointu, qui va très loin, mais qui est totalement ouvert et qui est à la fois une formidable pâte à modeler, une formidable voix, qui va prendre des intonations très très différentes. Il va dire un mot 200 fois, par exemple, et les 200 fois, elles seront spécifiques, elles seront particulières, chaque mot prononcé aura sa singularité. Il vous fait comme ça revisiter complètement la langue, il vous fait partir en voyage de la langue. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Donc nous, en tant que réalisateurs, concepteurs, avec Wilfried, on a juste à préparer des terrains, vous voyez, préparer des dispositifs pour faire s'exprimer Denis Lavant. Et la richesse de ses compositions et de sa recherche fait évidemment le reste. Et donc, c'est vraiment une création à 3, à 4 à chaque fois. Mmh. Et l'intérêt de la Muse en circuit, j'y reviens, parce que c'est un lieu vraiment très, très particulier. C'est vraiment un espace à la fois où on peut faire des représentations, mais c'est surtout, dès le départ, moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté, justement, laboratoire. C'est-à-dire que tout est fait dans ce petit lieu pour faciliter, en fait, la recherche, la création, trouver des choses. Il y a des panneaux, il y a des projecteurs, il y a un grill technique, il y a des grands rideaux noirs, on les enlève, tout d'un coup c'est blanc. Ouais, il y a, tout est fait pour que puisse émerger quelque chose. Et ça c'est rare, ces lieux-là aujourd'hui. Vous voyez, ils sont de plus en plus rares. Et c'est important de le signaler.
Ça pourrait donner des idées dans une région qui s'appellerait les Pays de la Loire, quoi, des nouveaux lieux culturels. Quoi. mais il y a cet autre acteur, enfin, qui sont les éditions Nous. Les éditions Nous, elles sont apparues à quel moment du projet?
Wilfried. Pour moi, vraiment au tout départ, parce que c'est vraiment, je suis rentré encore une fois en forêt kafkaïenne, et Marc-Antoine le dit magnifiquement, c'est qu'on avait la ferme intention de se perdre en forêt kafkaïenne, et c'était vraiment et c'était vraiment l'éditeur qui a fait pour moi le plus beau travail sur sur Kafka grâce à Robert Kahn et la qualité du livre. Et donc rapidement je les ai contactés en leur disant qu'il y avait ce projet, mais comme nous-mêmes on savait pas exactement où ça allait, il y avait plutôt des intentions, et donc ça a pris quand même presque quelques années en fait pour concrétiser quelque chose, parce que là aussi la dimension accessible pour le plus grand nombre était pour nous importante, donc il fallait rester aussi dans une économie. Et là on a pu bénéficier aussi du savoir-faire extraordinaire de Marc-Antoine, qui ne fait que des objets improbables,
oui.
Et donc qui savait très bien qui contacter et comment travailler justement à un objet aussi étonnant que ce coffret.
Le résultat est vraiment, à mes yeux, extraordinaire. Moi, j'adore les livres, hein. Je suis un passionné par les livres. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'étais sidéré, vraiment sidéré. Quand j'ai appris que Marc-Antoine était dans la boucle, je me suis dit, bon, ça ne m'étonne pas trop, je connais un peu son travail par ailleurs. Et donc, le résultat est vraiment un résultat extraordinaire. Je vais vous remercier, Wilfried Wendling, et Marc-Antoine Mathieu, d'avoir accepté cette émission, d'avoir accepté mon rendez-vous. J'ai été vraiment ravi de cette conversation. Je vais vous souhaiter une bonne journée, parce que l'émission arrive à sa fin. Donc, merci Wilfried Wendling, et puis peut-être...
Merci à vous.
Et peut-être à bientôt. Merci Marc-Antoine. Avant de terminer l'émission, rapidement, petit coup de projecteur sur les événements à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Tout d'abord, du 22 avril au 7 mai prochain, c'est la manifestation Écriture en Acte, un rendez-vous proposé par le Quai, au partenariat avec le TCB, le THV, le CAT, l'Université d'Angers, et le cinéma Les 400 coups. Et puis la librairie Les Nuits Bleues, la mystérieuse librairie Les Nuits Bleues, déménage de la rue Maillet, mais on ne sait pas où. Voilà. Donc, ils vont nous le dire certainement bientôt. Ça ne les empêche pas de lancer une invitation le 25 avril à 19h avec Anna Pitch, autrice de Garde à vue, parue aux éditions Masso. Quant au lieu, là, je ne peux pas vous en dire plus. Peut-être lors de la prochaine émission. Et puis, rappelez le rendez-vous incontournable. Je veux parler du Festival Imaginaire qui aura lieu les 26 et 27 avril dans les salons Curnoy. Enfin, rappelez que la librairie Contact à Angers est en difficulté, que les salariés sont en attente d'un repreneur. Alors, la meilleure solution, c'est de les soutenir, parce que les livres, on les achète que dans des librairies. Au cours de l'émission, vous avez entendu Tilassine qui a joué Handel et Zendile qui a interprété She Landed Here. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 23 avril à 17h. Je recevrai Ghislaine Ledizès, autrice et animatrice d'ateliers d'écriture, dans quelques instants. Ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.